I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode 412, nous sommes en juillet 2021, je suis Patrick Béja de Finlande et lui c'est Cédric Ingrand de France.
Cette intro
était magnifique, comment ça va Cédric ?
Ça va, écoute, apparemment pour une fois il fait meilleur en Finlande qu'en France parce que chez nous c'est une espèce de mousson froide, enfin c'est pas, t'as pas l'impression d'être mi-juillet très clairement. Donc, pour une fois, on va t'envier le temps qu'il fait chez toi.
Tu sais, il fait 26 degrés en Finlande, c'est la canicule totale. Non, j'exagère, il fait 28. Et il risque de faire 29 demain. Donc, effectivement, là, pour la Finlande, je ne te raconte pas, c'est vraiment des chaleurs jamais vues. Écoute, vous nous avez envoyé le soleil. Certes, c'est sans doute à cause d'un dérèglement climatique intense. Mais là, maintenant, tout de suite, je vais pas m'en plaindre immédiatement. si, quand même, peut-être un peu. On va parler de plein de choses super intéressantes. On a des étendues crypto-monnaies NFT-ifiques encore qui vont vous surprendre, je vous assure. Ça va encore vous surprendre. Il y a des nouvelles de nouveaux téléphones Samsung. On a Donald Trump qui attaque Facebook et les États-Unis en même temps pour un procès. Vous allez voir, c'est un peu ridicule, mais il y a des choses à dire. On a aussi du streaming qui fait gagner beaucoup d'argent à Disney dans certains pays. On va en parler. Une techpocalypse en Chine et aux US. Il y a un truc hyper important qui s'est passé aux US. On va le réserver pour la fin parce que c'est un petit peu fastidieux, mais c'est quand même très important. On vous en parlera. Puis j'ai quelques sujets à vous dévoiler pour des articles un peu plus longs que je mettrai en lien. C'est ceux qui vont généralement dans la newsletter, mais là, je vais les mettre en lien. Je vous parlerai de tout ça. C'est là aussi passionnant, vraiment un très beau programme. Et j'aimerais remercier ceux qui réussissent à vous, ou en tout cas ceux qui permettent de vous proposer cette émission. C'est les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je nomme spécifiquement Andy Autuori, Aurélien Le Riche, Romlag69, Antoine D et John Kiss, à qui on envoie des bisous. Et aussi les producteurs de cet épisode, Franck Matignon et Stéphane Lioret. Franck et Stéphane, ça ferait presque un nom de duo de chansons françaises des années 80. Moi, je verrais bien ça. Franck et Stéphane, ça serait le thème du Rendez-vous Tech. Vous pourriez chanter un truc sur la tech, ça serait formidable. En tout cas, merci à vous deux, les deux producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech. Et tous ceux qui soutiennent l'émission, un grand, grand merci à vous. Même par ces moments de chaleur intense, vous gardez mon esprit frais et alerte. On va dire ça comme ça. Alors, on a plein de sujets, comme je le disais, mais on va commencer par un truc dont on parlait avant de lancer l'enregistrement. On est en train de diffuser, évidemment, sur Twitch, comme tous les mardis à midi. On diffuse l'enregistrement sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre si ça vous intéresse. Et je racontais que j'utilise désormais un petit logiciel de Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, qui utilise la puissance de ces cartes graphiques récentes, les séries RTX, pour créer un effet bokeh, un effet de flou sur le fond de l'image, c'est-à-dire qu'il prend l'image de la webcam, il repère par intelligence artificielle, en temps réel évidemment, la personne qui est devant l'image, et il floute tout ce qu'il y a derrière. Et ça se fait en temps réel, sans utilisation excessive du processeur de l'ordinateur, et ça donne un rendu qui est franchement très correct. Et Cédric, tu me disais, c'est en train de changer des choses dans le broadcast en général, ce type de technologie.
Absolument. Là, moi, je travaille avec une régie, un Tricaster. Mais bon, le modèle, tu vois, le truc pour faire la Ligue des Champions à l'Eurovision, enfin, tu vois un peu le modèle. Voilà. Et à l'intérieur, c'est des cartes Nvidia. Je ne suis même pas allé voir d'ailleurs exactement de quelle carte il s'agit. Mais il y a aussi maintenant des dispositifs. Tout ce que tu peux faire, c'est comme incrustation, c'est-à-dire t'incruster sur un fond en 2D, en 3D. Jusque-là, ça se faisait sur la base de la couleur. On te mettait sur un fond vert, ben alors il faut l'éclairer. On voit bien toutes ces vidéos où tu as quand même des petits retours de vert sur les côtés des visages qui ne te donnent jamais bonne mine. Mmh. Et là, je suis en train de regarder ton incrustation. Elle est vachement bien. Alors, il faut dire que tu as une espèce de coupe de Zazou avec des cheveux qui partent dans, dans tous les sens.
Donc, je me plaignais avant de lancer l'enregistrement.
Donc, il a un petit peu de mal. Donc, il y en a certains qui sont un peu flous. Mais il y a justement maintenant des systèmes d'incrustation. Il y a une boîte incroyable. Ils sont turcs, je crois, qui s'appelle Zero Density. Je vous engage à aller voir leurs vidéos. Et ils font des trucs absolument dingues. C'est-à-dire que, de fait, ils t'incrustent sur le fond. Il n'y a plus besoin d'avoir de fond, en fait. C'est-à-dire que, tout à coup, ils détectent, voilà, c'est toi. C'est donc toi, probablement, le sujet.
Ouais. Bah, on peut faire ça. Avec le logiciel broadcast de NVIDIA, on peut aussi carrément supprimer le fond. Alors, effectivement, ce n'est pas parfait. Ouais. Mais si tu n'es pas trop mal éclairé, c'est franchement correct comme résultat. Surtout que ça coûte tout presque rien, quoi.
La clé de tout ça, c'est la lumière. Mais t'as qu'on peut t'incruster, tu vois, en pleine rue. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de mettre un fond derrière. C'est bouleversant. Et ça change tout. Enfin, ce qui se passe en termes de technologie, t'as vu ce qu'ils avaient fait sur Mandalorian, où il n'y a plus de fond vert. En fait, le fond maintenant est un gigantesque écran LCD courbe qui reproduit le décor en temps réel et qui bouge le décor en même temps que les caméras bougent. Donc
qui est relié aux caméras, ouais, tout à fait.
Voilà, mais là, c'est un truc d'une puissance. J'ai pas trouvé ce que ça coûtait, mais je pense que là, c'est un tout petit peu hors de mes moyens.
Oui, le système du Mandalorian, effectivement, c'est un petit peu cher. Ouais.
Mais là, c'est vrai que l'intrusion de ces cartes graphiques qui ont quand même une puissance démente. Moi, je me souviens de ma première GeForce il y a 20 ans, c'était pas la même. Hein. Tout à coup, permettre de faire des choses absolument remarquables. Et c'est pas fini.
Et donc, ça a des implications, effectivement, dans toute la chaîne de production vidéo qui sont... la tech est partout. Je pense que c'est clair. Bah écoutez, on va prendre notre premier sujet avec de la crypto-monnaie, avec Visa, qui a négocié un partenariat avec une cinquantaine de sociétés qui gèrent les crypto-monnaies, dont Coinbase, qui est l'une des plus grosses, pour permettre aux possesseurs de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies d'acheter des choses par les paiements Visa. C'est-à-dire qu'on avait déjà la chose qui avait été implémentée par PayPal, ce qui permettait de faire en sorte que tous les magasins qui acceptaient PayPal, eh ben, pouvaient du coup accepter les crypto-monnaies. Maintenant, ça va encore plus loin, c'est Visa, ce qui est là encore une étape pour les crypto-monnaies et le Bitcoin qui est majeure, puisqu'on va pouvoir, partout où on a une boutique qui accepte les cartes Visa, payer en crypto-monnaie. C'est assez, assez important, mais c'est un autre sujet lié aux crypto qui a retenu mon attention encore plus, c'est les actions synthétiques. Est-ce que tu sais ce que c'est que les actions synthétiques, Cédric ?
Ben, c'est comme une crypto-monnaie, mais qui reproduirait le cours d'une action, c'est-à-dire d'une action de société. Et du coup, au lieu d'aller, sur Robinhood ou ailleurs pour acheter deux actions Amazon et trois actions Apple, tu pourrais acheter l'équivalent, mais avec une crypto-monnaie. Mais alors, ça pose plus de questions que ça n'en résout.
En fait, il y a des stable coins qui sont des monnaies alignées sur la valeur de monnaie réelle. Par exemple, on a un stable coin lié au dollar. Si on dit demain, Patrick crée le Patrick coin, mais moi, je ne veux pas toutes ces histoires de volatilité ridicule. Je dis, on va aligner le Patrick coin sur l'euro. Et on fait en sorte que chaque Patrick coin vaut 1 euro et ça suit le cours de l'euro systématiquement. Donc, il y a des systèmes techniques qui font qu'on peut mettre ça en place. Et bien là, c'est le même principe, sauf que après les bitcoins, les stablecoins, les NFT, ils ont créé, peu importe le nom de la société, mais il y a des actions synthétiques qui sont en fait des tokens dont la valeur est calquée sur la valeur d'une action. Et de la même manière qu'un stablecoin a la valeur calquée sur la valeur d'une monnaie, bah là, l'action fake Apple est calqué sur la valeur de l'action Apple. Et donc, on peut aller acheter une de ces actions synthétiques au prix de l'action Apple aujourd'hui. Et si demain, l'action Apple gagne 100$ ou perd 100$, et ben notre action synthétique aura également, en théorie, perdu ou gagné ces 100 dollars. Alors après, il peut y avoir des petites variations ou des moments d'adaptation qui prennent quelques minutes, quelques heures, mais le système est en train d'être affiné et ça fonctionne. Et du coup, oui, ça pose des millions de questions. Moi, je suis constamment mind-blowé par ce que font les développeurs de crypto-monnaie et de blockchain. Là, ça pose des problèmes évidemment importants, ne serait-ce que de régulation, j'imagine, Cédric.
Tant que tu restes aligné, je réfléchis à haute voix, hein, mais c'est vrai qu'il y a un problème quand même de... Enfin, c'est-à-dire que l'intérêt des actions, c'est un peu comme aller acheter une maison chez un notaire, enfin signer devant notaire, plutôt que de l'acheter dans la rue contre un paquet de cash. Tout à coup, tu as quand même un niveau de protection en disant « Attendez, je suis quand même passé par un professionnel, etc. » Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tes fake Tesla, fake Apple et tout ça, tu les achètes sur la blockchain. Enfin, en gros, ils ont le même problème que n'importe quelle crypto-monnaie. Leur valeur n'est issue que d'un consensus. C'est-à-dire que la valeur, c'est quand même jamais que ce que quelqu'un d'autre est prêt à mettre pour te les racheter. Donc, tant que tout le monde s'accorde sur le fait que bah, fake Tesla vaut le même prix qu'une action Tesla, c'est super. Mais
j'ai l'impression
que les actions sont un truc très régulé. Et là, pourtant, je suis pas très... Tu vois, je suis pas pour la régulation à tout crin, loin de là. Mais bon, là encore une fois, la technologie a fait un bond un peu hors de portée de la régulation. Mais je pense que tous les gendarmes de la bouse partout sont en train de se gratter la tête en disant « Qu'est-ce que c'est que cette c'est connerie ? Qu'est-ce qu'on peut y
Exactement.
Faire ?»
Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que clairement, il y a là... Imaginons que le système fonctionne et que l'action, on ne puisse l'acheter. Si je comprends bien, c'est vraiment... Ça vient de sortir, ces histoires. Ça vient d'être amené à la lumière du jour. Et donc, c'est des systèmes qui, comme les NFT, comme le reste, sont un petit peu compliqués à comprendre. Si je comprends bien et que l'action, a priori, le prix est fixé et aligné sur le prix de l'action réelle, ben, on ne peut pas décider, moi, je vais aller l'acheter à tel ou tel prix, cette action synthétique. Si on veut en acheter une, il faut payer le prix que coûte l'action réelle dans le monde réel. Donc, le prix est relativement fixé. Après, bon, si on trouve des acheteurs ou pas, peu importe. Mais est-ce qu'on peut juste en créer autant qu'on veut en payant le prix que vaut l'action à ce moment, et donc il y en a une quantité presque, enfin n'importe qui peut en acheter, et la quantité dont il en existe sur la blockchain ne change pas son prix, qui est indexé sur le prix dans le monde réel où le nombre d'actions est limité, ce qui fait la valeur. Mais du coup, bah, ça veut dire que comment est-ce que ça fonctionne pour donner de la valeur au truc synthétique ? Est-ce que les régulateurs doivent s'y intéresser ? Parce qu'évidemment, le problème est que ce genre de marché est extrêmement régulé, quel que soit le pays du monde, parce que ça peut mettre en danger des investisseurs qui n'y connaissent pas grand-chose, et c'est pour ça qu'il y a des rapports, une ouverture des comptes sur les actions cotées en bourse, il y a certaines obligations auxquelles elles doivent se plier, les sociétés qui vous permettent d'acheter ou de vendre ces actions, etc. etc. Là, c'est le Far West, donc oui, ça pose,
il y a surtout une différence majeure. C'est-à-dire que si demain tu achètes une action Apple, à un moment, cette action Apple, elle a été émise par Apple. c'est-à-dire que tu as acheté un bout du capital d'une entreprise. Ce que tu achètes en achetant des NFT, ces tokens miroirs, bah, n'a aucun rapport en fait avec l'entreprise émettrice.
Certes,
aucun.
Sauf que si c'est effectivement mathématiquement et programmatiquement aligné sur la valeur de l'action Apple... tu vois, il y a quand même une certaine valeur.
Oui, mais du coup, c'est une valeur qui n'a rien à voir avec l'offre et la demande autour de ce que tu détiens toi.
Non, c'est indexé sur. Mais c'est comme les stablecoins finalement. Un stablecoin dont la valeur est indexée sur un dollar, bah, la valeur de ton stablecoin en lui-même n'a rien à voir avec l'offre et la demande des stablecoins. Par contre, elle est indexée sur la valeur du dollar, qui, elle, a à voir avec l'offre et la demande.
Oui, mais sa valeur intrinsèque aussi est assez stable. Alors que là, je te vends un token Apple à combien est l'action, je ne sais plus, mais ça ne te garantit pas du tout que tu peux le revendre au même prix.
Ah, bien sûr.
C'est-à-dire que si j'achète une action à voilà, 144,50, si j'achète une action à 144,50 aujourd'hui, j'ai quand même, pas une garantie, mais j'ai de bonnes raisons de penser que quelqu'un me la rachètera à ce prix-là aujourd'hui, et puis à un autre prix demain, etc. etc. Ton token, bah, il vaut ça parce que la personne qui te l'a vendu te l'a affiché, mais personne n'est... Enfin, ce cours n'est pas décidé par l'offre et la demande.
C'est-à-dire que... Donc c'est... Il n'est pas du tout garanti que tu puisses trouver quelqu'un pour te le racheter, te la racheter, cette action synthétique.
Exactement.
Surtout si... Oui, non, mais oui, on est d'accord, on est d'accord.
C'est... Alors, je comprends l'intérêt de la... comme tout ce qui se passe autour de la blockchain, sur la simplicité, la fluidité, le fait qu'on passe moins
d'intermédiaires,
la décentralisation, la sécurité même, jusqu'à un certain point. En tout cas, des échanges, pas forcément. Voilà. Bon, mais là, je pense qu'ils s'attaquent à un truc... À la limite, tu sais quoi ? Moi, je serais eux, j'aurais fait plutôt un fonds index sur la blockchain. Tu sais, les fonds index, les ETF, ces fonds qui, par exemple, te permettent de dire... Là, ce n'est pas une action, c'est plus un indice.
Tiens,
moi, je vais acheter un... Ça se fait, hein, il y a des immenses sociétés qui font ça couramment. Tu peux épargner, par exemple, en disant, tiens, je vais épargner sur un fonds indexé sur le CAC 40. Voilà. Ça a le mérite de la simplicité, ça a le mérite de distribuer un peu ton investissement entre plusieurs valeurs, etc.
Oui, mais
et puis en plus, peut-être que ça n'a rien à gérer, tu vois.
Mais là, c'est ce qui est séduisant.
Ah oui, mais en,
en crypto, oui. Ce qui est séduisant, c'est justement cette idée de reproduire l'action du monde réel dans le monde de la blockchain. Bon, écoutez, on verra comment ça évolue. Je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Une petite info sur le monde de la, des processeurs et l'indépendance des pays de l'Union européenne, notamment à ce niveau-là. Il y a eu une rencontre entre Pat Gelsinger et Emmanuel Macron il y a quelques jours de ça, où ils ont discuté de la possibilité d'implémenter des usines de fabrication de processeurs en Europe. Pat Gelsinger avait annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, une initiative assez intéressante et assez audacieuse qui disait nous, chez Intel, on a pris du retard, c'est vrai, sur la fabrication de processeurs de dernière génération, mais on ne va certainement pas arrêter d'en fabriquer parce que le monde en a besoin de plus en plus. Et donc, on va investir massivement pour en faire plus et construire des usines un petit peu partout. Aujourd'hui, il est question de plusieurs usines en Europe avec des avantages et des inconvénients. L'un des éléments clés, c'est que, évidemment, l'Europe a besoin de cette indépendance pour les processeurs qui sont présents partout. Hein. Ce n'est pas uniquement les ordinateurs, mais on parle évidemment de voitures, d'avions, de partout. Ils sont partout.
De micro-ondes, d'objets connectés.
Absolument tout. Le truc, c'est que Intel, à ce stade, est en train d'étudier la fabrication d'usines à peu près qui fabriquerait en 10 nanomètres, quand l'horizon qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est 3 nanomètres pour la plus grande haute technologie. Et à terme, sur leur site en Irlande, ils viseraient 7 nanomètres, mais à terme. Donc, c'est un gros pari parce que ça demande des investissements. Évidemment, Intel est en train de dire, ça serait avantageux pour l'Europe. Peut-être que vous pourriez nous donner des avantages au niveau des impôts, etc. Alors, évidemment, ils sont en train de négocier pour ça. Mais malgré ça, le pari est important parce que d'une part, il y a cette histoire de technologie qui n'est pas une technologie super de pointe. Mais d'autre part, il y a aussi le fait que selon les estimations les plus précises, on aurait des coûts de fabrication en Europe qui seraient de 30 à 40% plus élevés qu'en Asie. Donc, on aurait des processeurs qui seraient moins performants et plus chers. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas y aller ? Est-ce que ça veut dire qu'on jette à l'eau l'idée de cette indépendance technologique qui est importante ? Je te pose la question, Cédric, que doit-on faire ?
L'Asie n'est pas le seul référentiel, hein, parce que moi, j'ai visité des fabs, comme on dit, d'Intel aux États-Unis, et donc ça fait longtemps qu'ils sont habitués à en créer partout. C'est vrai qu'ils en ont créé en Israël, ils en ont créé... C'est vrai que c'est des investissements massifs, c'est-à-dire que le ticket d'entrée, c'est quoi ? C'est 3, 4, 5 milliards de dollars. 4, 5 milliards de dollars, c'est quand même le prix du siège social d'Apple. Hein, mais là, je crois que s'ils sont sur une opération, à quoi c'est ça ? 20 milliards de dollars.
20 milliards d'investissements, oui.
Voilà, distribué sur plusieurs pays européens. Il se trouve, évidemment, tu n'es plus chez nous, donc tu ne sais pas. Emmanuel Macron en a parlé hier, enfin a évoqué évoqué dans les pistes de reprise économique le fait qu'il y avait des choses qu'il fallait relocaliser, comme ils l'ont fait pour, je sais pas, le paracétamol, et puis le fait que voilà, il y a une guerre sur les composants, donc ce serait quand même pas mal d'avoir des semi-conducteurs locaux. J'ai encore entendu Bruno Le Maire ce matin dire à peu près la même chose. Donc Pat Gelsinger, le patron d'Intel, négocie sur du velours. mais c'est quelqu'un de très bien. Moi, j'aime beaucoup Pat Gelsinger. Je trouve ça que voilà, c'est un rechangement de culture à la tête d'Intel qui était passé d'une culture d'ingénierie, en tout cas dans ses dirigeants, à une culture plus vente et marketing, et qui là, au travers de Pat Gelsinger, revient largement sur une culture d'ingénierie. Moi, je l'ai connu. Il était patron de la R&D chez Intel. Mec remarquable. Donc c'est intéressant, mais pour faire quelle puce ? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment juste pour faire de l'Intel Core ou ce genre de choses ? J'imagine. Mais peut-être pas seulement, parce que tu as aussi... je réfléchis à haute voix. Qu'est-ce qu'il leur reste comme grosse activité ? Ils font toujours leur puce 5G ?
Non, ils ont revendu... ils ont arrêté l'activité et revendu l'activité, on Apple. Va dire, les ingénieurs, voilà, Apple, faire pour contrer Broadcom.
Oui, c'était il y a deux ans, c'est ça, absolument.
Mais oui,
pour ne pas être les poings liés face à Qualcomm.
C'est ça. Je crois qu'il y a quand même une logique à pousser la fabrication, enfin, le fait de monter des usines de ce type-là en Europe, parce que d'une part, les 10 nanomètres, oui, on ne va pas faire les dernières cartes graphiques ou les derniers iPhones peut-être en Europe, mais de toute façon, ceux-là, on ne les aurait pas fait. Mais il y a quand même un marché pour ce type de processeur. Et en plus de ça, l'essentiel, c'est d'acquérir cette autonomie, cette indépendance d'autres pays, pour le cas où tout part en couille, si vous me permettez l'expression. Et si c'est le cas, eh ben effectivement, si on a des problèmes aussi importants ou même plus importants peut-être un jour, imaginons, que ceux qu'on a connus avec la pandémie, on pourra se dire au moins, tu vois, on doit adapter nos chaînes de production pour mettre des processeurs gravés en 10 nanomètres ou 7 nanomètres plutôt qu'en 3 nanomètres, mais... L'option, c'est d'en avoir en 7 nanomètres et pas, on n'a plus de processeur, tu vois. Donc,
bien sûr.
Je pense que c'est quand même cohérent.
Et puis en plus, c'est pas un truc figé, c'est-à-dire que tu crées cette usine, tu crées l'infrastructure, mais c'est comme si tu créais une usine de voiture. Ouais. C'est-à-dire que tu crées une usine de voiture et puis après, les lignes de production à l'intérieur, elles vont évoluer. C'est-à-dire que Intel l'explique bien, sur la vie d'une usine, les investissements successifs peuvent atteindre 100 milliards de dollars. T'imagines l'échelle de ces trucs quand même, c'est dingue.
Ce
n'est qu'un début et puis...
Ouais. J'imagine que, comme tu le disais, ils vont avoir des avantages financiers importants. Et là, parfois, c'est discutable. Je crois que c'est pour le coup vraiment important, quoi. C'est un investissement.
Avoir une Fab Intel en France, ce serait quand même quelque chose. Hein. Mais évidemment, quand il dit « Oui, mais regardez quand même, en Asie, il y a des trucs qui sont moins chers », je pense que, il se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il fait monter un peu les enchères, à mon avis, entre plusieurs pays pour voir ce qu'il peut avoir comme avantage d'implantation. Démarrage d'activité un peu hors taxe, ce genre de choses. Ça, c'est de bonne guerre et tous les industriels le font partout. Hein. Les Anglais, ils viennent de re-signer. Il y a un truc qui vient de se passer en Angleterre qui est très rigolo. Comment il s'appelle le Premier ministre anglais.
Boris Johnson.
Boris Johnson. J'avoue, je voulais l'appeler Ben Johnson. Non, rien à voir, c'est un autre Johnson. Boris Johnson a annoncé, ça y est, Nissan revient à je ne sais plus où, à Cumberland ou un truc comme ça, refait une grosse usine, tout ça. Puis finalement, le dossier est un peu sorti sur la liste des avantages, mais qu'on dirait une liste de courses de Noël que le gouvernement anglais a donné à Nissan pour l'occasion. En gros, c'est ils reviennent parce que ça leur coûte vraiment pas cher, quoi. Et du coup, les Anglais sont quand même aperçus d'un truc, c'est que 45% de Nissan, c'est Renault, 15% de Renault, c'est l'État français, et que donc les Anglais sont en train de faire un chèque à l'État français. Et évidemment, les tabloïds prennent ça très très mal. On ne peut pas gagner partout.
Il y a Binogur qui demande dans la chatroom, je me pose la question, le savoir-faire n'est pas présent en France, est-ce qu'on aura des usines en France qui seront peuplées de travailleurs détachés ? C'est une très bonne question.
Il y a plein de savoir-faire en France.
Il y a du savoir-faire en France. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que la fabrication de processeurs en France et en Europe était quasiment nulle. En fait, ce n'est pas le cas. On a déjà 10% de la fabrication de processeurs qui est faite en Europe. 10%, ce n'est pas énorme, mais ce n'est quand même pas rien du tout. Et ce n'est pas les processeurs de pointe, mais ça veut dire qu'il y a quand même un certain savoir-faire, et puis surtout ça veut dire qu'on va le développer, et imaginons même que ça soit que des travailleurs détachés, ça voudra dire que bah, y a des gens qu'on va pouvoir entraîner, qu'on va mettre en place, on va mettre en place cette infrastructure et on va développer ce savoir-faire. Donc, d'une part, il y a quand même du savoir-faire en France et en Europe. Pour info, pour rappel, la machine qui permet de graver en 5 nanomètres, qui est de l'extrême ultraviolette, c'est une machine qui est fabriquée, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Et tout les fabricants qui font ce type de processeur utilisent cette machine-là. Donc, il y a vraiment un savoir-faire et puis ça permet de le développer. Bon, on va avancer avec d'autres sujets. D'abord, un leak sur les probables annonces du prochain Galaxy Unpacked, l'événement de Samsung où ils présentent en été leur prochain téléphone. Selon, comment il s'appelle, le leaker Evan Blass, c'est ça, qui est un leaker bien connu. On aura d'une part, alors la news la moins excitante, c'est le Galaxy FE, je crois, Galaxy S21 FE, qui est un S21 un petit peu moins puissant, un petit peu plus abordable, mais surtout, il y aurait une annonce, ah, j'ai pas donné la date, ça serait le 11 août, donc ça arrive, et d'ici un petit mois, et donc le plus excitant, c'est qu'on aurait un nouveau Galaxy Fold, donc le Galaxy Fold 3, pardon, le Galaxy Fold, comment il s'appelle ? Galaxy Z Fold 3, c'est celui qui s'ouvre pour faire une sorte de mini-tablette, et on aurait aussi un Galaxy Z Flip 3 qui est celui qui, au contraire, se replie en deux au milieu pour faire un mini téléphone comme on les connaissait à l'époque, les trucs à clapet, quoi. Voilà, les trucs à clapet. Et en plus de ça, il y aurait également une montre qui a un concept intéressant. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a deux montres, hein, mais la Galaxy Watch 4 classique aurait en fait un petit cadre, vous savez, le cadran pourrait se tourner, il y a une rotation sur le cadran pour s'en servir un petit peu comme la Digital Crown, la couronne numérique qu'on a sur l'Apple Watch pour contrôler, qui est un élément d'interface. Et bien là, ça serait le cadran qu'on peut tourner. Oula, j'ai fait sonner ma montre.
Ça, ils l'ont déjà fait, hein.
Ah oui, d'accord.
Il y a déjà eu des crowns qui tournaient, etc. etc. Surtout pour moi,
On a la Galaxy Watch Active.
Raté une grosse nouvelle, mais...
Ah, d'accord. Bah, je finis sur ce que j'ai vu. Galaxy Watch Active, qui est un autre type de montre, et les nouveaux Galaxy Buds, les Galaxy Buds 2, qui seraient les écouteurs, les équivalents des AirPods. Oui, j'ai raté une grosse news sur ces leaks.
Bah, c'est ce qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas de note.
Galaxy Note. Mm-hmm. Ce serait la fin d'une note. Et alors ça, j'avoue que ça fait saigner mon petit cœur.
C'est vrai, c'était ton préféré.
Non, mais enfin, j'ai beaucoup aimé le Note. C'est un peu comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé le Note, mais jamais au point de l'utiliser régulièrement.
oui, c'est le problème.
C'est vrai qu'il a émergé, tu sais, c'était les phablettes et tout ça, souviens-toi. Mm-hmm. Ces gigantesques écrans qui sont devenus de taille tout à fait normale maintenant, mais qui avaient quand même, voilà, le stylet, enfin, qui a toujours cette différence, et c'est un truc qu'ils ont poussé, voire même en faisant des événements séparés pour le Note. Moi, je suis allé voir une fois à New York le lancement juste du Note, enfin, c'était étonnant en termes d'investissement de leur part. C'est un truc qui avait son public. Il y a une tribu d'utilisateurs de notes qui, là, sont dans un deuil absolument terrible.
Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour eux. J'ai une bonne nouvelle pour eux. Il semblerait que le Galaxy Z Fold 3 puisse être utilisé avec le S Pen, le stylet. Ce qui fait que tu pourrais, du coup, pour une somme légèrement plus élevée, passer sur un Galaxy Z Fold avec... stylet. Tu es rassuré.
Ah, mais en fait, tu as raison. C'est un truc qu'on évoquait en fait depuis que le Z Fold était arrivé, en disant comment ils vont faire pour faire le Galaxy et puis le Note et puis le Fold. Enfin, à un moment, something's gotta give, quoi. D'accord. Ok. Alors.
Et donc c'est logique. Ça serait logique. Voilà.
J'ai
aussi juste un petit mot à dire pour ceux parmi vous qui ne sont pas 100% au fait des nouveautés gaming, Nintendo a annoncé la sortie en octobre d'une nouvelle version de la Nintendo Switch, le modèle OLED. Alors, si vous suivez le rendez-vous jeu, bien sûr, vous savez déjà tout dessus. Mais je veux juste vous mentionner ce qui change pour ceux qui ne suivent pas ça d'aussi près. Ben, comme son nom l'indique, elle a un écran OLED et c'est vraiment à peu près tout. Elle est 50€ plus chère et l'écran est de bien meilleure qualité, un peu plus grand que la Switch de base. Et contrairement à la Switch Lite, qui est un autre modèle, elle peut se connecter à la télévision ou alors être utilisée en mode portable. La Switch Lite ne peut pas se connecter à la télévision, elle est utilisable qu'en mode portable. Mais donc, cette Switch OLED est exactement la Switch de base qui peut switcher entre mode portable et télévision avec un meilleur écran, écran plus grand. Donc ensuite, je laisserai à chacun le soin de décider si c'est une mise à jour qui vaut le coup ou pas. Et l'Internet s'est suffisamment déchiré sur cette question ces derniers jours après l'annonce. Elle arrive le 8 octobre. Donc comme ça, vous saurez.
Pas bonne envie.
Oui.
La version OLED, ouais, clairement.
Moi, j'ai une Switch depuis longtemps, mais je dois vous avouer quelque chose. J'ai commandé une version OLED. J'ai précommandé une version OLED. mais pour le boulot, tu comprends,
mais c'est important, c'est normal, pour le travail. Il faut qu'il fasse le job. Je veux dire, voilà. C'est un dur job, mais il faut que quelqu'un le fasse.
Il faut que quelqu'un le fasse, exactement. Mais c'est aussi, tu sais, ma vieille, entre guillemets, c'était un des tout premiers modèles qui avait une autonomie moins grande. Donc, je me dis, oui. En fait, c'est quand même une upgrade. Hein. Donc, c'est tout à fait justifié.
Ouais, j'ai pas réussi à m'auto-donner cette excuse. J'ai la même.
Hein. Oui,
et le problème, c'est que j'utilise rarement en mode mobile. Enfin, tu sais, 90%, c'est sur la télé, quoi.
Je comprends. Moi, je fais une émission sur les jeux vidéo, donc il faut que je puisse en parler quand même.
Non, mais arrête de t'excuser.
Je me sens coupable, tu sais. On verra si je l'aurai aussi. Hein. Je l'ai commandé sur un site un petit peu douteux en Finlande qui a lancé les précommandes avant qu'elles soient officiellement ouvertes. Bon, on verra.
Juste un truc là sur le chat, je vois des gens qui s'envoient des messages en disant mais si, regardez, on a des boîtes de tech et de machins et de composants, on avait Aldebaran en robotique, ça. Enfin, je vous rappelle un truc, hein, sur les composants, on a ST Microelectronics qui est franco-italien et qui fait des milliards de capteurs présents dans tous les smartphones du monde. Donc on a la question de savoir si on saurait faire des usines de composants chez nous, elle est déjà statuée depuis longtemps. Vous pouvez aller à Grenoble, à Crolles, à tout ça, il y a des centaines, des milliers de gens qui travaillent là-dedans. Cette compétence, on l'a. Maintenant, on n'a pas les milliards d'Intel.
On va avancer, mais c'est un sujet qui est intéressant parce que je comprends, on a vraiment cette idée que j'ai peut-être contribué à véhiculer dans la France entière, puisque tout le monde écoute le Rendez-vous Tech, idée qu'on ne sait pas, tu sais, on ne sait pas faire, on n'a pas le savoir-faire, la maîtrise, l'expérience, et parce qu'on parlait de ces processeurs très haut de gamme et très compliqués à fabriquer. Et en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça, comme souvent dans ces sujets complexes. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai qu'on ne peut pas demain se lancer dans la fabrication de processeurs 3 nanomètres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin possible vers ce type d'expertise sur un plan qui n'est pas un plan à 30 ans, mais en quelques années.
Non. Ce n'est pas du tout délirant. Autant quand j'entends des politiques disant « mais je ne comprends pas pourquoi nos smartphones ne sont pas produits en France ».
Oui.
Là, monsieur, c'est pas possible. Et c'est pas tellement une question de niveau de vie, de salaire moyen, de tout ça, parce que je vous signale que le salaire moyen de l'ouvrier spécialisé qui travaille sur les lignes de production de smartphones Huawei en Chine, il se rapproche régulièrement, j'ai envie de dire, de ce qui se passe chez nous. Enfin, c'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est le savoir-faire, parce que c'est un truc qui faut en faire pour savoir le faire. Et la différence, c'est l'écosystème. C'est-à-dire, c'est justement, et c'est là que c'est intéressant d'avoir tout à coup des technologies de base présentes chez toi, c'est que c'est bien gentil de dire « mais attendez, on va faire des usines de produits high-tech ». Oui, mais tes composants, ils viennent d'où ? De Singapour et de Taïwan et de Chine. Ah, donc ce serait peut-être mieux de le faire à Taïwan, à Singapour ou en Chine. Et voilà, et tout à coup, tu reprends l'écosystème. C'est intéressant, du coup, il faut aller relire ce bouquin génial qui était sorti sur Intel il y a quelques années, qui raconte qu'en fait, c'est la couche basse du truc. C'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est quoi ? C'est Stanford, c'est des investisseurs et tout à coup, c'est des fabricants de composants qui ont permis à des fabricants d'ordinateurs d'émerger, etc. etc. Ouais. Donc, c'est chouette de refaire de l'écosystème en partant du bas et pas en disant « on va faire des smartphones », parce que ça ne marche pas comme ça.
Je crois que une autre bonne comparaison serait de dire « est-ce qu'ils pourraient se mettre à faire du fromage en Chine ?» ils n'ont pas tout le passif, tout l'écosystème qui fait qu'on a du bon fromage qui pue ici. Bah,
on va dire
ici,
que l'écosystème du fromage est un peu plus court, c'est un circuit plus court. Ça commence avec des vaches. Donc ça, c'est... des vaches, c'est une techno connue. Hein. On exporte d'ailleurs. Et...
C'est vrai qu'ils se sont même mis à faire du vin en Californie, donc chez les Américains.
Et comme de quoi, manière extrêmement convaincante et en débauchant certains de nos grands professionnels. Mais c'est un peu comme quand tu dis, les Japonais ne seront jamais capables de faire des croissants. Bah, ils t'ont fait mentir. Les Japonais font des croissants remarquables parce qu'ils ont acquis le know-how. Et tout
Je reste dubitatif, ayant mangé des croissants au Japon. Je ne suis pas 100% convaincu. Peut-être est-ce ma mauvaise foi nationale de rigueur.
Allez chez Chococro, donc tu ne peux pas savoir.
C'est vrai. Bon, la prochaine fois. Je conclue sur cette partie en disant qu'effectivement, comme le fait remarquer Kassim, ces usines pourraient totalement fabriquer des processeurs de Nintendo Switch puisqu'ils sont assez anciens et que même en 10 nanomètres, ça serait plus que suffisant pour faire ces processeurs-là. La décision est prise. Nous devons absolument avoir des usines qui font ça en France pour pouvoir faire des processeurs de Switch et lancer la production de Nintendo en France. La décision est prise. Merci à tous. Et merci à tous également et toutes pour votre soutien sur Patreon. Vous savez que l'émission existe parce que vous soutenez sur Patreon et c'est une décision que chacun prend et chacun a la liberté de se dire si j'apprécie l'émission, bah, peut-être que je vais rejoindre ce groupe de gens formidables qui sont des gens bien, qui acceptent et qui font même une démarche active de payer pour du contenu qu'ils apprécient, du contenu qui est disponible gratuitement, mais qui n'existerait pas si les gens ne le soutenaient pas. C'est un petit peu une sorte de comment dire, de pas d'oxymore, mais de paradoxe. C'est-à-dire que c'est du contenu qui est disponible pour tous, mais qui est disponible pour tous gratuitement, uniquement parce que certains décident de rejoindre le groupe des gens qui soutiennent. Et ce groupe, c'est évidemment des gens formidables, des gens d'une qualité rare, qui sont nombreux à se dire bah, « si jamais j'apprécie le contenu de cette émission, je vais lui donner 1 euro, 2 euros ». Ce n'est pas énorme, hein, on parlait de croissant tout à l'heure. Allez, pour le prix d'un croissant, vous pouvez déjà avoir un impact sur cet écosystème et décider de devenir actif dans cet écosystème, de vous dire bah, « je vais faire un pas » pour que ces choses qui me plaisent plus que d'autres, peut-être que vous ne regardez plus la télévision, peut-être que vous n'écoutez pas trop la radio, peut-être même que vous ne lisez pas trop la presse, ou que c'est trop en même temps, c'est trop d'informations, que vous n'y retrouvez pas, et bien vous vous dites, le rendez-vous tech, il m'apporte quelque chose, et c'est un contenu que j'apprécie de qualité, et donc vous décidez d'aller sur patreon.com/rdvtech et de soutenir un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas énorme comme investissement, j'espère pour la plupart d'entre vous. Si c'est un investissement qui est trop important, et je peux le comprendre, hein, pour certains ça peut être le cas, et bien vous n'êtes pas du tout obligé de soutenir financièrement, vous pouvez avoir accès à l'émission, mais si c'est une chose que vous pouvez vous permettre et que vous pensez qu'il y a une certaine valeur à cette émission, et bien je vous encourage à aller, comme beaucoup le font déjà, sur patreon.com/rdvtech, ça prend 2 minutes, hein, montre en main, 2 minutes, vous décidez le niveau de soutien, vous vous arrêtez quand vous voulez, et vous devenez un patriote qui, en plus, a accès à des récompenses super sympas comme l'émission sans pub, les timecodes dans les notes, l'accès au Discord, etc., etc. Donc, je vous remercie tous et toutes de votre soutien. C'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, quand vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là, vous vous dites « Ah !» Patrick, il est temps que je rejoigne la communauté des Patriotes. Cling Patrick, les clés dans le bol. Merci à tous et à toutes. Patreon.com/rdvtech.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les clés dans le bol, ce serait un bon titre de podcast, mais ça parle.
Ah, ça me fait penser à un autre truc, genre les doigts dans la prise, tu sais, c'est la même logique grammaticale.
Oui, c'est ça.
Les clés dans le bol, très bien, on va y penser.
Un truc sur la maison connectée.
Par exemple.
Vas-y, je réfléchis.
Donald Trump et son équipe d'avocats a décidé d'intenter un procès à Facebook, Twitter, Google. Et c'est un procès qui est assez intéressant parce qu'il se trouve que quand ça a été annoncé, en fait, je me suis dit « Ah, mais ok, est-ce qu'on va enfin se poser la question de est-ce que ces réseaux sociaux ont le droit de bannir les utilisateurs comme ils le souhaitent ? Est-ce que les lois sont bien faites ? La section 230, etc. » Et en fait, quand les détails du procès sont arrivés, j'ai été abasourdi par l'ineptie de l'argument légal de Donald Trump et de son équipe. Alors, d'une part, je ne suis pas un avocat, mais je m'intéresse beaucoup à ces sujets et ça a été confirmé par un certain nombre de lectures que j'ai faites. Ce qu'il dit, Donald Trump, et ce que dit son équipe, c'est qu'il devrait être protégé par le premier amendement qui dit que... Alors, le premier amendement de la Constitution américaine, c'est celui dont on parle souvent, qui dit que le gouvernement, hein, ne peut pas, en gros, restreindre la liberté de parole. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Et donc, l'équipe de Trump fait un procès à Twitter, Facebook, Google, etc., sur la base du premier amendement. Et depuis qu'on entend parler de ces sujets, je crois que le monde entier sait que le premier amendement s'adresse spécifiquement au gouvernement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui n'a pas le droit de réduire la liberté de parole, pas du tout les sociétés privées. Et alors je me suis dit, mais attendez, comment est-ce que ça tient debout ? Et l'argument, encore une fois, cet argument, c'est Facebook est tellement puissant qu'il travaille de concert avec le gouvernement et que donc c'est un petit peu comme le gouvernement. C'est alors, n'importe quoi. Ça alors, n'a... Dis-moi.
J'étais exactement sur ta position au début en disant mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas adapter Facebook et Twitter sur le moyen du
premier sur la base amendement du premier
de la Constitution américaine parce que ça n'a pas. Enfin, c'est pas à eux que ça s'adresse. J'ai l'analogie, c'est toujours le bar. Hein. Si tu vas au bar du coin, que tu te bourres la gueule et que tu te mets à insulter tout le monde, bah le patron va dire Maurice, c'est bon, tu fermes ta gueule maintenant. Et il sera dans son bon droit. La liberté d'expression s'arrête là où le patron du bar a décidé qu'elle s'arrête. Twitter et Facebook, c'est pareil. Sauf que et c'est là que le moyen légal pourrait devenir intéressant. Sauf qu'ils expliquent qu'en gros, et ça pourrait, ça pourrait exister chez nous, même si on n'a pas de First Amendment sur le même moule, mais de dire que finalement les règles qui sont imposées à ces réseaux, sur la modération de leur contenu, etc., en font le bras armé de la puissance publique. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il faut faire en sorte que tel et tel type de contenu puisse pas être, soit détecté automatiquement, soit censuré, que tel et tel type de compte soit fermé, etc.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles sur ces réseaux qui fait que, d'une certaine manière, c'est le gouvernement qui décide ce qui est acceptable ou pas sur les réseaux.
Et donc, alors, je ne dis pas que ça va marcher, hein, je ne dis pas que le procès va donner grand-chose, mais
Ouais, alors je dirais, il y a deux choses. D'une part, ces règles-là pour la bonne conduite des réseaux sociaux, d'une certaine manière, c'est des dérivés des lois, en tout cas en France. Donc, le gouvernement demande juste à ces réseaux d'observer les lois. Dans la forme, ça peut être différent parce que la forme des réseaux est différente des médias qu'on a connus jusqu'à maintenant. Mais bon, peut-être. Moi, ça me paraît difficile à faire tenir. Et d'autre part, ce qu'on a vu absolument partout, c'est une campagne de financement de la campagne de Donald Trump, justement, sans précédent, Et du coup, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que, d'une part, le procès va se faire sortir immédiatement, et d'autre part, le vrai but est de lever encore de l'argent, comme ça a été le cas à chaque fois qu'il a fait des vagues, il lève de l'argent pour sa campagne. Donc, on verra, yep. On suivra le procès de près, évidemment. À mon avis, ça va aller nulle part, mais peut-être que je me trompe. On verra.
C'est fort possible.
En parlant de procès aux États-Unis, il y a une coalition de 36, on va dire, ministres de la justice des États américains qui font un procès à Google pour, en fait, abus de position dominante par rapport au Play Store. Et là encore, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça, le Play Store de Google, abus de position dominante ? Pas du tout. On n'est pas dans le contexte de l'App Store d'Apple sur iOS. On a un système qui est extrêmement ouvert, où n'importe qui peut créer un App Store sur son téléphone, qui n'est pas l'App Store de Google, et ils peuvent parfaitement avoir une ouverture totale, installer des apps en parallèle, etc., etc. Excusez-moi, j'ai mon fils qui pleure. On reprend. Merci d'avoir meublé pendant que mon fils était en train de pleurer. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, pourquoi ça a été interrompu. En fait, il jouait avec ma femme et ma femme a fait splash avec un peu d'eau sur lui. Et tu vois, parce que c'était rigolo. Et en fait, lui, il ne voulait pas. Donc, il s'est mis à pleurer. Il est monté. Il m'a dit « Maman m'a envoyé de l'eau dessus !» Il est venu pleurer. Il a fallu le prendre dans les bras. Bref, voilà. Bon, donc, on reprend, mais tout va bien, hein, ça y est.
Les aléas du direct et de la paternité.
En tout cas, ça a fait un petit show sympathique pour les gens qui regardaient sur Twitch. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut regarder sur Twitch. Donc, le procès de Donald Trump, le procès de Google. Et donc, l'idée étant que Google, en fait, est très ouvert, mais... Donc, ce que je me suis dit à la base, c'est « Mais attends, ça va aller nulle part, ça non plus. Quelle idée ridicule. » Et en fait, le procès, là, pour le coup, contrairement à ce qui se passe avec Trump, est pas vraiment sur ça. Le procès est sur le fait que Google a préemptivement essayé d'interdire ou d'empêcher l'inclusion d'App Store différents ou le développement d'App Store différents sur Android par divers moyens qui seront détaillés dans le procès lui-même. Mais donc celui-là, ma première réaction c'était non mais encore c'est n'importe quoi, et en réalité pas tellement. Il y a quelque chose qui, il y a une base à ce procès et il y a une enquête qui est sérieuse. Donc voilà, à mentionner.
Et c'est compliqué parce que c'est souvent des accords quand même privés entre, c'est ça, Google et Samsung, Google et les autres, en gros, qui leur demandent « Ouais, est-ce que vraiment vous êtes forcé de développer votre propre store ?» C'est compliqué parce que Android, qui est cette plateforme qui offrait de la simplicité et qui permettait à n'importe quel constructeur de faire des smartphones convaincants dès le début. Faut se souvenir quand même au début, tu vois, le Android pour Google, c'était une arme défensive. C'était un truc qui disait, bon, on va faire une plateforme, on va la filer gratuitement aux fabricants, et comme ça, on aura au moins la garantie que nos outils, nos services, nos machins seront toujours accessibles. Bon, évidemment, ça s'est développé dans un business absolument faramineux, enfin, etc. Donc, tout à coup, les impératifs sont plus les mêmes. Mais ouais. Je vais suivre ça parce que je vois pas où ça. Enfin, ça could go either way, comme on dirait en anglais.
Exactement. Et puis, tant qu'on est sur les questions légales, je vais mentionner le sujet de l'affaire Mila, dont vous avez peut-être entendu parler. Simplement, on ne va pas repartir dans les détails, mais simplement pour dire qu'un jugement a été rendu et que suite au harcèlement de Mila, certaines personnes ont été condamnées à de la prison avec sursis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne des gens qui ont, y compris des gens qui ont envoyé un tweet, qui n'ont publié qu'un tweet. Donc pour un tweet, certains ont été jugés coupables et de harcèlement et donc été condamnés à de la prison avec sursis. C'est notable.
Et puis de menaces de mort. Hein, là, un seul tweet.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je veux dire, c'est notable parce que on associe souvent l'idée du harcèlement à une série de tweets, enfin harcèlement qui est sur la durée. Mais dans le cadre de l'affaire Mila, c'était dans le cadre d'une campagne de harcèlement. Et donc, les personnes qui ont envoyé ces tweets unitaires ne pouvaient pas ignorer, en tout cas selon l'appréciation des juges, ne pouvaient pas ignorer qu'il s'agissait d'une campagne. Donc, ils ont contribué à cette campagne. Et ça suffit donc effectivement à la décision, à la condamnation à prison avec sursis. C'est intéressant parce que ça veut dire que le message envoyé est en fait un tweet, dans ce cadre précis, hein, mais d'une manière générale, même un tweet peut suffire à être condamné. Donc le message est très clairement envoyé dans ce contexte.
J'ai adoré un des condamnés qui est venu commenter la décision sur Twitter. Je pense qu'il n'a pas compris.
Ça dépend de ce qu'il a dit. Hein. Ça dépend de ce qu'il a dit.
Sinon, la lettre, du moins l'esprit de la loi. Il y a des fois le silence est la meilleure des
stratégies. Parfois. Et puis, je voudrais noter une chose d'ailleurs. J'ai reçu un petit commentaire sur iTunes. Vous savez, on peut laisser des commentaires, des appréciations, des reviews. Et n'hésitez pas à aller le faire d'ailleurs. J'ai reçu un commentaire. Une étoile qui m'a un petit peu frustré de quelqu'un qui disait « Oh, ça parle de politique, c'est hyper partisan, machin. » Et alors, d'une part, je pense que je fais vraiment de mon mieux pour pas être partisan. J'essaye d'analyser l'aspect tech des choses. Et même quand parfois, peut-être, il y a une préférence qui peut s'induire dans mon discours. J'essaye toujours, vous savez, je me fais l'avocat du diable tout le temps, donc j'essaye d'être aussi analytique et neutre que possible. Et c'est quelque chose qui est précieux et qui est important, mais encore plus que ça, c'est des sujets qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas ne pas parler de ces sujets quand on parle de tech. Ça serait vous rendre un desservice, comme on dit en anglais, que de ne pas évoquer ces sujets. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui venaient peut-être à une certaine époque que pour entendre parler des dernières features de l'iPhone ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, pour parler tech, on ne peut pas ne pas parler de politique. Donc, je sais que c'est qu'une personne qui a envoyé des commentaires, machin, mais...
Oui, jamais surreprésenter ce genre de choses. Toujours rappeler que l'accès au podcast est gratuit et que donc, dans ces conditions-là, tu en as toujours pour ton argent.
Évidemment. Non, mais je veux dire...
C'est pas comme si tu étais le seul podcast sur iTunes. Il y a un choix qui est un peu au-delà du réel. Donc, de toute façon, si ça ne leur plaît pas ou plaît plus, ils peuvent aller écouter autre chose. Et voilà, et vous pouvez vous quitter, bons amis. Le côté « je vais coller une mauvaise review parce qu'il y a un sujet qui ne m'a pas plu », ouais, enfin, c'est un peu comme si tu disais « Ah, faute, j'ai pas trop aimé le dessert quand tu m'as invité à dîner ». Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah, écoute, c'est pas grave, on ne te réinvitera pas.
Bon, c'est juste un peu frustrant, tu vois, de voir ces reviews arriver, parce qu'il y a autant, il y a souvent des critiques qui sont parfaitement valides et que je prends à cœur, ou que j'explique pourquoi je ne vais pas dans cette direction et que, mais je comprends la critique. Là, vraiment, c'est, je pense que j'ai simplement dit des choses qui lui plaît pas, qui sont pas alignées avec ses avis politiques, j'imagine, mais enfin bon, bref, tout ça pour dire que si vous voulez aller laisser des commentaires ou laisser des notes sur iTunes, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça contrecarre les énervés qui le font peut-être. Alors, réseaux sociaux, on continue avec les réseaux sociaux. On parlait de de YouTube et de TikTok la semaine dernière, et on a eu des études qui sont tombées sur le temps passé sur TikTok et YouTube. En fait, on mettait en parallèle les deux. Est-ce que l'un est plus populaire que l'autre ? Est-ce que l'un peut faire plus d'argent que l'autre, avoir plus de succès en fonction de l'âge, des boomers, des jeunes ? Qui est-ce qui dépense de l'argent ? Qui est-ce qui attire les annonceurs, etc. Ce qui est sûr, c'est que le temps moyen passé sur TikTok est en augmentation constante. Aujourd'hui, aux États-Unis, sur Android, les utilisateurs d'Android passent en moyenne 24,5 heures par mois sur TikTok contre 22 sur YouTube. Je dis par mois, mais je me trompe peut-être. Oui, c'est bien ça, c'est par mois. Sur YouTube. Donc, ils passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube. Et pareil, en Angleterre, 26 heures contre 16 heures sur YouTube. Et c'est une tendance qui ne date pas d'il y a des années. Hein. C'est une tendance qui s'est vraiment inversée il y a, allez, un ou deux ans, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, si vous vous posiez la question de savoir si vraiment TikTok fait peur aux géants de la tech, la réponse est oui. Ce genre de chiffres, c'est les choses qui donnent des sueurs froides au vice-président chez YouTube. Et puis, toujours sur TikTok, on parlait des fonctionnalités nouvelles qu'ils ajoutent. Il y a d'une part une nouvelle fonctionnalité qui permet de payer, de contribuer aux créateurs, un petit peu comme c'est possible sur Twitter, enfin comme ça va être bientôt possible sur Twitter ou comme ça va être bientôt possible sur Instagram. En gros, c'est du Patreon, mais directement sur TikTok. Et, ou sur Twitch hein, d'ailleurs, et il y a aussi une fonctionnalité assez intéressante et étonnante, c'est l'idée d'envoyer des candidatures sur TikTok, d'envoyer des candidatures de boulot sur TikTok,
pour des jobs,
avec
oui.
des TikTok pour des jobs. J'étais dubitatif, mais en voyant les candidatures, je me dis, mais pourquoi pas, pour certains types de jobs, ça peut fonctionner, et ceux qu'ils ont mis en avant, bah, ils sont franchement pas mal du tout, on peut comprendre qu'en recevant une candidature avec un TikTok comme ça, on se dit « Ah ouais, celui-là, je voudrais lui parler » ou « Celle-là, elle pourrait convenir ». C'était intéressant.
C'est vraiment juste aller chercher les jeunes générations là où elles se trouvent. C'est pas du tout idiot. Ce que disait tout à l'heure sur les chiffres, la comparaison entre la fréquentation de TikTok et celle de YouTube, c'est là qu'il faudrait aller voir le rapport en détail de Apani pour voir si on parle de public comparable, j'ai envie de dire. Parce que sinon, tu vois, on compare, je sais pas, les gens qui lisent 20 minutes en ligne à ceux qui achètent le Figaro en kiosque. Enfin, c'est deux consommations différentes. Mais de fait, l'explosion de TikTok est un truc... Moi, je suis ahuri, quoi. Ma fille de 7 ans, tout ce qu'elle veut, c'est TikTok. Alors, évidemment, la réponse est non. Hein. La réponse
mais quand
est
même.
Never.
Ça l'empêche pas de demander. Justement, à propos de réseaux sociaux et de ce genre de choses, il y a un article très intéressant dans le Wall Street Journal, figure-toi, sur les nouvelles utilisations d'applications comme Match, Bumble ou Tinder, qui sont des applications, bon, Tinder, je pense que tout le monde connaît en France, mais Match ou Bumble, c'est un petit peu l'équivalent des applications où on va essayer de trouver l'âme sœur, ou peut-être le coup d'un soir, qui sont utilisées de plus en plus pour trouver des amis. Et oui, on a des gens...
Des amis sur Tinder. Sur Match, je peux l'imaginer. Sur Tinder.
Écoute, figure-toi. Alors, il parle surtout de Bumble dans l'article, mais c'est une utilisation qu'ils sont en train de pousser et de développer sur ces réseaux, parce que bien sûr, c'est une croissance à laquelle ils ne disent pas non. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a des témoignages, alors qu'ils sont peut-être anecdotiques, de gens qui ont trouvé de très bons amis sur Twitter, sur Tinder ou Bumble. Et je me dis, pourquoi pas ? C'est vrai que, alors peut-être que c'est un peu plus le cas pendant la pandémie, mais d'une manière générale, on a une difficulté peut-être à se connecter dans nos vies compliquées et en ligne. Mmh. Pourquoi pas trouver des amis ? Moi, je dis le Tinder de l'amitié, ça me paraît pas mal.
Mais Tinder de l'amitié, t'as déjà moult réseaux sociaux, pardon. Mais alors, je comprends pour eux, parce qu'évidemment, même en termes d'image, c'est pas mal de se détacher un peu de la foire à la saucisse, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, moi, je...
Alors,
je
pour pas, préciser...
J'ai jamais
de compte pour
Tinder,
préciser.
Mais genre, si je crée un jour un compte Tinder, ce serait pas pour aller chercher l'amitié.
Mais ben, peut-être, tu sais pas, parce que, évidemment, je l'ai pas expliqué, mais... L'écosystème est fait et est conçu pour qu'on puisse sélectionner des comptes où on cherche de l'amitié, on dit « moi, je veux une relation platonique » ou « je veux tel ou tel truc ». Tu vois, c'est une sorte de bifurcation de l'application. Il y a une section où on cherche des amis. C'est pas juste que tu mets ton profil en ligne et tu dis « tu espères trouver des amis ». Donc, c'est beaucoup plus... Ça a commencé comme ça, mais en voyant la croissance de ce type de connexion, ces réseaux ont développé la chose de manière beaucoup plus, pas dirigé, mais enfin, c'est beaucoup plus sérieusement fait. On peut effectivement choisir, moi, je cherche des amis, et a priori, on ne tombe que sur des gens qui cherchent des amis aussi. Donc, pourquoi pas ? Moi, je dis pourquoi pas. Le ciné et le streaming sont heureux ensemble, en tout cas dans le cas de Black Widow, qui vient de sortir au cinéma dans tous les pays du monde, et... en streaming sur Disney+, dans la plupart des pays du monde, évidemment, sauf la France, qui respecte la chronologie des médias. Le film a récupéré 215 millions de dollars le premier week-end, ce qu'on appelle le premier week-end, qui est un petit peu plus long, dont 60 millions sur Disney+. Et ils ont battu des records. Alors, des records dans le cadre de pandémie, etc., c'est à qualifier. Mais ils ont ramené beaucoup d'argent aux États-Unis, où le film était également disponible sur Disney+, en streaming. Vous vous souvenez qu'il faut payer une vingtaine d'euros, une trentaine de dollars sur Disney Plus pour y avoir accès et déjà être abonné. Mais ça, donc il y a quelques limites et on ne va pas reparler de la question du prix et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que la sortie du film en salle n'a pas handicapé les ventes sur Disney Plus et vice versa. Donc c'est intéressant à noter, je trouve. Le film a rapporté beaucoup d'argent, y compris en streaming.
C'est compliqué à compter, ça, parce qu'évidemment, la fréquentation des cinémas aux États-Unis, par exemple, a quand même beaucoup souffert. Donc, c'est vrai que s'offrir cette nouvelle fenêtre, ça avait un immense mérite pour les studios. Oui, je vois, ça y est, dans le chat, ça y est, on dit « Mais non, mais 30 euros quand on paye déjà !» Oui, non, mais c'est ce débat-là est à 6 mois de retard.
Je peux vous dire, 6 mois de retard, mais surtout, c'est 20 euros en France. Je suis désolé, 20 euros, c'est souvent moins que 2 places de cinéma, enfin 22 spécifiquement. Moi, je l'ai...
Avec le popcorn.
Oui, non, mais ça, on compte même pas le popcorn. 20 euros, c'est 2 places de cinéma, je suis désolé, c'est pas si cher que ça. Mais bon, bref, peu importe. Et entre parenthèses, si vous voulez un petit débrief de Black Widow et de plein de trucs Marvel, il y a le podcast Super Laser Punch qu'on fait avec mon ami Johan qui est disponible dans votre app de podcast. Super Laser Punch, c'est on a déjà le débrief de Black Widow, donc vous saurez tout avec et sans spoiler. Quoi d'autre? Est-ce que tu as vu cette étude du décalage du streaming de quelques secondes à presque une minute en fonction de l'endroit où on regarde la chaîne et que dans le cas des matchs de foot, ça peut te gâcher le truc.
Ouais, parce que t'entends tous tes voisins qui hurlent.
C'est ça.
Et toi, tu dis, y a touche pour l'instant, je sais pas.
Et c'est terrible. Quand tu passes par Salto, c'est quand même 49 secondes de décalage. 49. Donc,
mais ça dépend, parce qu'en fait, tu passes par des encodeurs, par machin, et puis après, tu passes par les sources codines de ton opérateur qui doit avoir un serveur local. Enfin, bah, ça dépend comment tu regardes sur une tablette, un smartphone, ta télé, etc., qui elle aussi va faire un peu de buffer pour que tu aies une bonne. Voilà. Et c'est là que c'est vrai que l'immense supériorité de la TNT, c'est que ça marche tout de suite. Et il n'y a pas de buffer, ou très peu. Mais c'est amusant parce que c'est vraiment le seul truc pour lequel tu vois, personne te dit ah c'est con quand même, moi chez moi le 20h il démarre 24 secondes plus tard. Non, c'est pas très grave. Alors si peut-être sur les allocutions d'Emmanuel Macron
quand t'entends les
mais pourquoi vous énervez, tu regardes Twitter, c'est que Twitter t'as le temps réel et l'allocution en retard, tu dis mais pourquoi vous énervez, je comprends pas. Ah, il a dit ça, d'accord. Bon, là il y a pas grand chose, il y a des solutions, c'est ça que tu voulais évoquer.
Non, même pas vraiment, c'est juste que c'est marrant, c'est pour les matchs de foot spécifiquement, tu vois, c'est quelques cas précis où ça va poser problème. La plupart du temps, comme tu le dis, c'est pas très très gênant, mais
aller regarder le foot chez le voisin qui a les
passes, qui a la TNT
avant vous,
c'est
la TNT ou autre chose, enfin un truc qui va vite, quoi.
On a également un autre sujet que je voulais évoquer, c'est celui de la techpocalypse en Chine et aux États-Unis. Alors, je vais passer un petit peu rapidement sur la techpocalypse en Chine. Je l'ai évoqué la semaine dernière avec la Chine qui a fait retirer l'application Didi Chuxing de tous les App Store. Ils ont continué dans ce sens-là. J'ai eu des dizaines d'articles sur ce qui se passe avec la tech en Chine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais en gros, vraiment, le gouvernement chinois est en train de mettre au pas, je pense qu'on peut dire la chose comme ça, est en train de mettre au pas.
Voire même mettre à l'amende.
C'est mettre au pas de
grosse reprise en main.
C'est ça, reprendre en main l'industrie de la tech. Et c'est vraiment, c'est pas juste anecdotique, c'est hyper, hyper sensible partout et c'est très important. Et donc, il y a plein de sociétés qui ont mis en pause leur lancement en bourse, qui se sont mis de manière préventive à suivre des règles qui pourraient peut-être être appliquées par le gouvernement. Enfin, c'est vraiment le parti est pas content, quoi. Mais
en l'occurrence, Didi Chuxing, qui est le Uber chinois, si tu veux.
On en parlait la semaine dernière.
Faisait son introduction en bourse aux États-Unis. C'était pas juste sur la bourse de Shanghai. Et du coup, ils se sont pris comme des coups de batte de baseball sur les genoux. C'est-à-dire que tout à coup, on l'a fait retirer les applications. Le gouvernement chinois a dit qu'il y avait un problème sur la sécurité des données. Enfin, c'était waouh. Et ce n'est pas les premiers, parce qu'il y a tout ce qui s'est passé
avec Alibaba, bien sûr.
Avec Alibaba,
qui
est pourtant un truc, tu vois, Jack Ma, emblématique, total, enfin, presque intouchable. Eh bien, pas intouchable du tout, rien n'est intouchable, si tu veux.
En Chine en particulier, oui.
Mais voilà, du coup, c'est vraiment c'est une grosse, grosse reprise en main, là où ils avaient quand même largement lâché la bride jusque-là. Allez-y, étendez-vous, exportez-vous, etc. Il pourrait se passer des choses comparables pour TikTok, parce que TikTok est de moins en moins une société chinoise. Et je pense que c'est un truc qui ne plaît pas du tout aux Chinois.
On pourrait se dire que c'est vraiment spécifique à la Chine, et bien sûr, de cette manière, c'est spécifique à la Chine, mais il s'est passé quelque chose de vraiment important aux États-Unis aussi ces derniers jours, avec un executive order du président Biden, qui a été signé il y a quelques jours, qui demande à l'ensemble des organisations du gouvernement américain de poursuivre toutes les avenues légales, toutes les possibilités légales qu'ils ont de de combattre les activités et les situations de monopole de toutes les industries américaines, évidemment ciblées en particulier sur les industries tech. Et c'est quelque chose, il faut lire, il y a un article de Matt Stroller qui est extrêmement bien écrit, qui résume tout ça. Peut-être que je le mettrai celui-là aussi dans les notes de l'émission avec les deux autres dont je vous parlerai juste après, mais qui détaille tout ça. C'est vraiment un changement de politique absolument radical, évidemment par rapport à l'administration Trump, mais même par rapport à l'administration Obama avant lui. Et c'est un changement de politique, un changement d'orientation qui va avoir des conséquences, on imagine, sur le long terme. En gros, l'idée, c'est que ce que dit Biden, il dit une chose qui est, à mon sens, très t-shirtable, qui est le capitalisme sans compétition n'est pas du capitalisme, c'est de l'exploitation. Et je crois que c'est, enfin, pour moi, là, on revient aux questions politiques, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez juste, parce que même les gens qui critiquent fermement le capitalisme, généralement, je crois, sont conscients que, on ne va pas partir dans dans des orientations communistes. Généralement, le marché ouvert, la compétition sont la base des sociétés occidentales aujourd'hui. Et je crois que personne ne remet vraiment ça en question. Ce dont on discute, c'est le rôle du gouvernement et l'importance des interventions du gouvernement. Et la raison pourquoi je dis ça, ce n'est pas juste pour parler de communisme, encore une fois, mais c'est pour dire à quel point...
Tu vas encore avoir des commentaires sur iTunes.
Mais c'est pour montrer à quel point la décision de Biden d'aller dans cette direction est importante. Il dit le gouvernement doit intervenir, doit réguler quand le capitalisme sort des clous. Alors ensuite, il y a plein de choses à voir. Hein. À quel point sort des clous? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont pouvoir? Est-ce que c'est sincère? Ça a l'air très sincère. Il a mis en place des gens, dont Lina Khan à la FCC, qui a écrit son doctorat sur la cassure des monopoles des grands de la tech. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'important. Il y a trois parties dans cet executive order. D'abord, cette nouvelle orientation politique qui ordonne à toutes les organisations, à tous les organismes étatiques d'utiliser la loi pour réduire les monopoles. Ensuite, il y a le fait que la Maison Blanche va gérer tout ça et pousser le Congrès à aller dans ce sens. Et enfin, il y a une liste de plusieurs éléments spécifiques qu'ils veulent modifier. Et ça ne touche pas que la tech. Hein. Il y a une chose qui est assez emblématique, qui est les aides à l'audition, les aides auditives, qui sont dans une situation de lobbyisme total, où ces aides auditives sont tout à fait utilisables facilement aujourd'hui et on n'a pas vraiment besoin dans la pratique de d'ordre de son médecin pour en acheter une, mais aux États-Unis, on ne peut pas les acheter sans ordonnance. Et ça, c'est le résultat d'un lobbying qui a été fait aux États-Unis. Je ne sais pas quelle est la situation en France, mais en tout cas, aux États-Unis, déjà, il y a quelques années, le gouvernement avait ordonné à la FDA, la Food and Drug Administration, de changer cette situation, et l'administratif, la bureaucratie de la FDA ne l'avait pas fait, avait simplement décidé de ne pas le faire. Alors, on pourrait parler de toutes les raisons diverses, de ça envoie de l'argent vers les géants pharmaceutiques qui peuvent réinvestir en machin, bref, peu importe. Là, c'est l'un des éléments dont ils disent maintenant il faut le faire, et il y en a plus de 70. Bref, sans rentrer plus que ça dans les détails, c'est vraiment un moment extrêmement important, et je suis curieux de... Oui. Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas plus parlé dans la presse francophone, parce que c'est un changement d'orientation. Peut-être que je comprends mal, mais je n'ai pas l'impression. C'est un changement d'orientation majeur aux États-Unis.
C'est un retour à la doctrine précédente. C'est-à-dire que la doctrine de l'antitrust, tu regardes, tu vois...
Quand tu dis précédente, on remonte il y a 40 ou 50 ans, hein, même plus.
C'est absolument. Avant les années 70-80, avant l'administration Reagan, avant tout ça, où en gros, le régulateur de la FTC, le régulateur du commerce, pouvait empêcher ou au moins décourager des fusions et des acquisitions qui réduisaient la compétition sur un marché. Mais il y avait eu aussi d'ailleurs des excès dans ce sens, c'est-à-dire que par exemple une grande chaîne de supermarchés dans une grande ville américaine rachetait le numéro 2 ou le numéro 3 du marché et on disait ah ben non c'est pas possible. Oui mais regardez, il y a 11 autres chaînes de supermarchés dans dans cette ville, donc le choix du consommateur n'est pas forcément affecté par tout ça, quoi. Enfin bon bref, et ça c'était la doctrine d'avance, c'était tout ce qui limite la compétition, la concurrence est mauvais intrinsèquement. Et puis, il y a eu un changement de doctrine sous l'impulsion de plusieurs auteurs un peu de l'école économique de Chicago, tout ça, qui disait finalement le but qu'on poursuit, c'est finalement quand même le bien du consommateur. C'est sa capacité à avoir du choix, à avoir des produits, à ce qu'il n'y ait pas des ententes sur les prix, etc., etc. Et c'est devenu la doctrine de l'antitrust. Et donc, de fait, de ce côté-là, c'est difficile, par exemple, de t'attaquer à, je sais pas, à un Amazon en disant « bah non, ça va, les gens s'en sortent bien, ils ont plein de choix, ils ont des prix bien, la concurrence, ouais, il y a encore de la concurrence ». Même si, alors là, ce n'est pas forcément le cas d'Amazon, même si tu te retrouves face à un géant qui avale tous ses concurrents les uns après les autres. Et bien voilà, ce que l'administration Biden veut faire, c'est revenir à la doctrine précédente. C'est des débats qui existent depuis longtemps dans l'antitrust. Le truc quand même, c'est que Biden demande à la FTC, donc la Federal Trade Commission, de revenir sur des fusions déjà autorisées par les administrations précédentes. Parce qu'évidemment, les grosses fusions passent déjà devant les autorités du commerce qui autorisent ou autorisent pas. Et là, c'est vrai que, tu vois, enfin, parmi les exemples qu'on connaît, je sais pas, le rachat d'Instagram par Facebook, sur le moment... Bon, on a dit, OK, c'est pas... Ils rachètent un truc qui fait des photos sur Internet pour un milliard, bon, OK... Et finalement, là, vu la taille qu'a pris Instagram depuis, on dit « Ah oui, mais quand même, ils ont racheté. » Et ils ont trouvé des emails, d'ailleurs, de chez Facebook, disant « Ouais, si on les rachète, on s'épargne aussi un possible concurrent potentiel. » Et c'est pas bien. Or, les concurrents potentiels, c'est comme ça que les choses avancent, que la technologie avance, que l'innovation avance et que l'économie avance aussi.
Même au-delà, c'est l'une des bases du capitalisme. Beaucoup de gens l'oublient ou... Enfin, le capitalisme ne fonctionne pas sans compétition. C'est ce que dit Biden, d'ailleurs. Sans compétition, ça ne fonctionne juste pas.
Et là, on peut prendre deux exemples, sans forcément que ce soit le seul focus. Mais de fait, Instagram, Facebook aura beau jeu de te dire, attendez, excusez-moi, mais Instagram tel qu'il est aujourd'hui n'aurait peut-être pas été Instagram si ce n'est pas nous qui l'avions acheté.
Tout à fait. Et ils n'ont pas tort.
Voilà, parce qu'on leur a donné un modèle économique, machin, etc., l'infrastructure, tout. C'est-à-dire que ce ne serait pas le même Insta. Et puis, il y avait un modèle économique éminent à ce qu'on en soit l'opérateur. Prends WhatsApp, en revanche. Pourquoi est-ce que Facebook rachète WhatsApp? Il y a une opportunité de business qui justifie 19 milliards de dollars? Pas vraiment. En revanche, il y a une concurrence massive et dans plein de régions du monde à Messenger, auquel Facebook tenait énormément.
Et puis, une possibilité d'extension de WhatsApp en WeChat ou en toutes ces... messageries, des applications de messagerie qui sont très populaires en Asie, qui se sont étendues en fait avec des mini-apps, des trucs qui étendent leurs possibilités de manière comparable à un réseau social classique plus qu'à une application de messagerie. Donc oui, dans le cas de WhatsApp, c'est carrément, on écarte un concurrent, quoi.
Exactement.
Bon, écoutez, on verra où ça va, mais peut-être qu'on en reviendra sur ces sujets un petit peu plus en détail, mais ce qu'il faut retenir...
On risque fort.
On a vraiment un retour de bâton en Europe, et aujourd'hui aux États-Unis et en Chine, alors chacun à sa manière, mais un retour de bâton sur l'extension des industries de la tech en particulier, mais pas forcément que... Au final, bon, l'histoire jugera dans quelques décennies, j'imagine. Mais est-ce que ça n'est pas un fonctionnement sain des systèmes qu'on a mis en place avec des équilibres un petit peu partout ? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les États-Unis...
Le but de ces équilibres, c'est de permettre l'émergence de nouveaux acteurs, quand même, dans l'ensemble. Et c'est vrai que la question se pose. Je ne me souviens plus quel est le ratio, mais quand tu regardes les actions du Nasdaq, les actions du S&P 500, etc., aux États-Unis, c'est-à-dire les 500 plus grosses sociétés par capitalisation, je ne sais plus si c'est 30, 40, 60, 70 % n'existaient pas il y a 40 ans. Mmh. Donc, ce sont vraiment de nouveaux acteurs.
Ouais.
Or, le but du droit de la concurrence, c'est de faire en sorte que ce renouvellement naturel puisse continuer. Et c'est vrai que quand tu laisses se créer des géants qui, par capillarité, gagnent un marché, puis l'autre, puis tout ça, pourquoi est-ce qu'Amazon et Apple regardent aujourd'hui les marchés de l'éducation, de la santé, je ne parle même pas du voyage spatial ? Ben c'est parce qu'ils sont arrivés presque au bout de la croissance qu'ils pouvaient attendre sur leur marché naturel et leur position dominante de fait, même sans en abuser, fait d'eux des acteurs qui font un peu peur, évidemment, en termes de concurrence. Donc le but, c'est pas forcément de remettre tout le monde au même niveau, mais de faire en sorte que voilà un éventuel nouvel acteur soit pas forcé de se revendre parce qu'il a face à lui des géants qui peuvent, même sans le racheter, lui couper les vivres, quoi.
En tout cas, je peux vous dire que je ne m'attendais pas. Ça fait longtemps que je parle dans cette émission du fait qu'aux États-Unis, le sentiment est en train de changer. Il y a une réorientation profonde dans la classe politique de l'appréciation de l'industrie de la tech et que ça allait avoir des conséquences. Je vous avoue que je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Et on peut voir d'ailleurs dans la photo officielle de Biden qui signe son petit papier. Les gens qui sont derrière, on voit donc la chef de la FTC, Lina Khan, elle a un sourire d'une oreille à l'autre. Hein. Et encore une fois, c'est une femme qui a fait son doctorat sur « il faut démanteler Facebook, Facebook Google, Amazon, etc. » C'était son courant de pensée politique. Et elle est maintenant à la tête de la FTC. Donc, bon, il y a clairement un truc qui se passe. Et pour conclure, je voudrais vous évoquer deux papiers que je vais mettre en lien, à défaut de les mettre dans la newsletter sur laquelle on est en train de travailler. Elle va revenir à la rentrée, je pense. Donc, vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com. Il y a un petit lien là-dedans pour s'abonner à la newsletter. Allez-y. Mais à défaut de newsletter, je vais vous inclure ces liens dans les notes de l'émission. Il y en a deux en particulier qui, je pense, vous intéresseront. Le premier, c'est un papier très bien fait sur les blogueurs, les vlogueurs occidentaux qui commencent à diffuser la propagande chinoise sur YouTube. C'est-à-dire que ce sont des vlogueurs qui sont occidentaux, qui sont en train de dire « Ah, les médias occidentaux déforment la réalité de la situation en Chine. » Ils parlent en particulier de la situation des Ouïghours, qui, enfin, on a suffisamment de connaissances là-dessus pour savoir qu'elle est loin d'être idéale. Et en fait, on ne sait pas exactement pourquoi, comment ils sont arrivés à faire ce genre de choses, mais clairement, c'est de la propagande du parti. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des Occidentaux. Et donc, d'une certaine manière, je pense que c'est pas... ça, c'est moi qui le pense, mais je pense que c'est pas destiné à l'Occident. Mais par contre, c'est destiné aux Chinois de manière à brouiller suffisamment les pistes pour que citoyens chinois voient des chaînes occidentales qui vont dire « la Chine fait ce truc », d'autres acteurs occidentaux qui disent « Oh, les chaînes occidentales, les médias occidentaux déforment la réalité. » Et donc, comme on le voit dans les efforts de propagande actuels sur le net, on a tellement d'informations contradictoires qu'on se dit « Bon, ok, je comprends rien, je m'en fous. » Et c'est vraiment, le but de cette opération. Mais c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que je vois vraiment des occidentaux, des vlogueurs occidentaux qui font de la propagande du parti chinois. Généralement, on avait évidemment, on en parlait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, des ressortissants chinois, voire même des ressortissants ouïghurs qui faisaient ce genre de propagande. Là, c'est différent. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est un outil de recherche que certains journalistes ont utilisé pour le tester, qui est un outil qui s'appelle Search Atlas, qui met en parallèle des résultats de recherche de Google de différents pays. Et c'est un outil qui a été développé par des chercheurs, hein, c'est quelque chose d'académique, de sérieux, qui est hyper intéressant, et leurs conclusions sont hyper intéressantes. Il y a en fait des différences entre les différents pays qui sont assez significatives, et pas que ce qu'on attendrait. C'est pas seulement dans tel pays on parle plus de telle chose que de telle chose, mais vraiment la représentation que ça donne du sujet qu'on est en train de chercher est très différente. Alors évidemment, la première chose à laquelle on va penser quand on parle de la Chine, ça va être Tiananmen Square. Qu'est-ce qui se passe quand on a le truc en chinois et le truc en anglais? Évidemment, dans un cas, c'est un super lieu de vacances touristiques, et dans l'autre, c'est le théâtre de la révolution, des protestes. Des manifestations de Tiananmen et le tank, etc. Mais ils mettent en avant cette idée que l'idée d'un moteur de recherche neutre n'est juste pas possible dans la pratique. Et ils le montrent avec des exemples assez clairs. Et surtout, ce qu'ils disent également, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des choses qui sont essentielles à leur vie, qui peuvent changer leur vie. Ils donnent un exemple qui va beaucoup parler aux Américains, mais qui est quand même très parlant. Comment est-ce que je peux me renseigner ou avoir un avortement? Et évidemment, en fonction des résultats que tu vas avoir, ça peut complètement transformer ta vie. Il parle aussi de vaccins, comment on vote, comment etc. Alors, ces sujets spécifiques ne sont pas forcément les plus différents, mais d'une manière générale, je trouve que ça met bien en avant cette idée qu'un moteur de recherche te donne une représentation de la réalité, et le fait qu'il soit si différent dans différentes langues ou différents lieux géographiques, encore plus qu'on ne le pensait, est très intéressant à noter. Donc je vous encourage à aller lire cet article de Wired qui étudie la chose et en parle plus en détail. Le lien sera dans les notes de l'émission. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode qui a été un petit peu agité peut-être, mais extrêmement instructif pour moi en tout cas, grâce à la participation
et dense,
tout à fait. Et du coup, avant qu'on aille danser, je suis fatigué.
Oh là là,
Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, à part @Cédric sur Twitter?
Cédric sur Twitter, les doigts dans la prise, donc ce podcast sur la voiture électrique principalement, mais qui marche bien, je suis content pour un truc qu'on fait entre amis, tout ça, c'est sympathique. Alors, il y a un truc, si vous voulez me faire plaisir, je viens de lancer un nouveau podcast.
Non, encore
Non, mais tu vas comprendre. Il se trouve que mon épouse chérie et mes enfants sont au Canada en ce moment, parce qu'eux, ils sont citoyens canadiens et pas moi, et donc ils ont le droit d'aller au Canada et pas moi. Bah oui, parce qu'il faut être canadien pour rentrer au Canada en ce moment. Ça va peut-être s'arranger. Moi, j'ai un billet pour début août. J'espère que ça tiendra. Donc, mais pour y aller, c'est compliqué. Il faut faire une quarantaine, 14 jours, tout ça, etc. Donc, pour
j'ai fait ça
les
en Finlande en venant en septembre, ouais.
Ouais, pour occuper les enfants, entre autres, madame a dit, tiens, on va écrire une histoire, on va écrire un petit livre ensemble, chapitre par chapitre, imaginons une histoire. Donc, ils ont imaginé une histoire d'une famille extraterrestre qui s'appelle les Blue Goose, comme Blue, la couleur, et Goose, G-O-O-S, et qui ont envie de venir sur Terre. Pour l'instant, ils en sont au chapitre 4. Et moi, j'avais un jour comme ça, un jour de désœuvrement. Alors, pas du tout, en fait, j'étais à Barcelone pour le boulot. J'avais enregistré un jour un conte, tu vois, avec un micro, tout ça. J'avais racheté 3 musiques, tout ça. Bon, bref, une histoire de princesse et de dragon à envoyer à mes enfants. Comme ça, ils s'ennuyaient moins avec la jeune fille au père à l'époque. Et ça avait cartonné. Donc, mon épouse me dit, tiens, tu pourrais peut-être l'enregistrer, mettre des petites musiques, ce serait rigolo. Ouais, ok, d'accord, très bien. Et j'ai fait le premier chapitre. Et là, tout à coup, chling, j'ai une petite idée en disant « Attends, je suis en train de faire un contenu en audio, qu'est-ce que je pourrais en faire ?» Donc, j'ai fait faire un logo en 24 heures et vous pouvez aller chercher, pour l'instant sur Spotify, probablement dans les heures à venir, sur Apple Podcast et ailleurs, « The Blue Goose Come to Earth », qui est voilà, une série épisodique sur une famille extraterrestre. C'est en anglais, mais je vous invite à aller l'écouter. Ah, si, vous pouvez le trouver sur Google Podcast aussi, vous pouvez le trouver sur Podcast Addict, je crois, etc. Enfin bon, sur vos applications de podcast favorites, allez-y, moi ça me fera sourire de voir les... Parce que pour l'instant, le nombre d'écoutes, il est à 5, évidemment. Ça ne concerne que nous. Et c'est... J'en ai pas fait une publicité, mais je suis très fier du logo, vous allez voir. Et voilà, Spotify partout. The Blue Goose Come to Earth. Je te donnerai un lien que tu pourras mettre dans les liens de l'émission.
Très bien. The Blue Goose Come to Earth. Bon, je ne trouve pas en cherchant sur Brave, mais peut-être que... Non, je ne trouve pas sur Google non plus. Bon, tu me donneras le lien, mais
oui,
peut-être
absolument.
Sur Spotify. Très bien. Merci beaucoup, Cédric. The Blue Goose Come to Earth. Pour ma part, je ne suis pas un blue goo, mais j'ai un site qui s'appelle notepatrick.com sur lequel vous pouvez aller regarder tous les podcasts que je fais, dont Super Laser Punch, dont je parlais tout à l'heure, le rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo, et bien sûr la newsletter qui va revenir dans quelques semaines et qui, je pense, peuplera vos lectures de sujets hyper intéressants. Et bien sûr, en plus de ça, il y a le Patreon, patreon.com/rdvtech, où vous pouvez soutenir l'émission. Encore une fois, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil si vous pensez que l'émission est cool et si vous voulez rejoindre la communauté formidable de tous ceux qui soutiennent déjà l'émission, si vous voulez faire partie des winners de... Non, c'est du podcast, je ne sais pas. Je trouverai un autre terme, des patriotes, tout simplement. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Un mot tout de même pour vous signaler que je vais, à partir de la semaine prochaine, être off pendant quelques temps, 2-3 semaines. Donc, on aura des émissions spéciales et, en gros, il y aura des choses qui vont se passer, mais des sujets assez intéressant. J'espère que ça vous intéressera. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à préenregistrer ces épisodes spéciaux. Puis on aura un épisode d'actu aussi animé par un co-animateur formidable. Donc moi, je serai en vacances, mais vous aurez quand même le rendez-vous tech. Évidemment, j'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous donc, moi, en direct, en vrai, dans à peu près 3 semaines. On sera de retour, y compris sur Twitch, tous les mardis à 12h à midi. Et il n'y a pas d'after show aujourd'hui parce que, comme vous l'avez entendu avec l'interruption en cours d'émission, c'est un peu compliqué avec le petit qui est à la maison. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres incidents aquatiques ces dernières dizaines de minutes. Mais il va falloir, je pense que la seule solution, c'est bataille de... Comment ça s'appelle? Les ballons d'eau? Les bombes à eau? Voilà, bataille de bombes à eau, c'est la seule solution possible. Donc, on va faire ça. Je vous remercie tous, je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.